Regardez un texte d'un homme, un prophète, qui se situe dans le Lamentation de Jérémie. Vous avez peut-être déjà lu ce texte ou cette instruction de Jérémie, le prophète. Je vais lire au chapitre 3 et au verset 19 à 26. Souviens-toi de mon humiliation, dit Jérémie, de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité ou ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour ceux qui le cherchent. Et il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Il s'agit bien sûr du joug du Seigneur. Vous connaissez ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. « Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et léger. » Alléluia. À partir du moment où le Seigneur nous appelle, comme Jérémie a été appelé, il a été appelé, je dirais, si vous me le permettez, pour un ministère particulier, celui de prophète. Mais quand on lit la vie de Jérémie, ce prophète, on s'aperçoit que sa vie n'a pas été de toute facilité. Et il nous est démontré que Jérémie a été appelé dans sa jeunesse ou dans son adolescence, comme vous voulez, à servir le Seigneur. Il est écrit ceci en ce qui concerne Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. » Quel beau message! Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est révélé à Jérémie de la part de l'Éternel. « Je t'ai choisi. » Et je crois ce matin que si nous sommes là réunis ensemble à louer Dieu, à chanter la grâce de Dieu, c'est que nous avons été les uns et les autres, et peut-être pour certains dans l'avenir, appelés à suivre le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour ça, il nous appelle à lui, il nous appelle à venir à lui, il nous appelle à avoir confiance en lui, il nous appelle pour servir. Et le service, comme la Bible nous le dit et que j'aime à le dire, ce n'est pas uniquement les serviteurs de Dieu qui sont appelés à la prédication, mais c'est tous les frères et sœurs en la foi qui sont serviteurs et servantes de Dieu pour apporter autour d'eux la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu répandu sur les hommes, sur la terre, au travers du don de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce que Dieu demande à tout enfant de Dieu, c'est qu'il porte des fruits à la gloire de son nom. Mais dans la marche d'enfant de Dieu, comme on le disait en introduction, cette marche, elle n'est pas facile. Et je pourrais, et j'en suis un témoin, je peux l'affirmer, elle n'est pas facile. Elle demande une confiance totale en Dieu. Parce que plein de situations vont se lever sur notre chemin pour nous empêcher d'arriver à la vie éternelle. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il n'est jamais déçu, même s'il passe par des temps difficiles. Et si vous avez bien noté ce texte que nous avons lu, je dirais même cette confession de lamentation de Jérémie, eh bien nous nous apercevons au verset 19 qu'il dira ceci, « Souviens-toi de mon humiliation » et de ma vie errante, et il ajoute, écoutez bien, de l'absinthe et du poison. Ça, c'est ce qu'il a connu dans son temps de ministère, tout en servant Dieu, tout en appliquant ce que Dieu lui demandait qu'il dise au peuple et aux nations, Il nous est dit qu'il a connu des temps difficiles et il compare cela à de l'absinthe et du poison. Vous savez que l'absinthe, c'est une plante qui est dangereuse. C'est une plante qui dégage aussi de l'amertume. Et vous savez, quand on regarde un petit peu ce que la Bible nous enseigne sur l'amertume, il nous est dit que l'amertume abat l'homme. C'est-à-dire que, frères et sœurs, si nous laissons l'amertume rentrer dans notre cœur, dans nos pensées, par la vie que nous menons et qui nous semble difficile, parce que nous ne pensions pas qu'en étant enfants de Dieu, nous allons connaître de telles ou de telles difficultés, ne laissons jamais l'amertume produire des racines dans nos cœurs qui nous empêchera de vivre et de marcher dans la paix de Dieu, dans la douceur de Dieu, d'être vainqueur dans les situations que nous connaissons, parce qu'à toute situation, Dieu a une solution. Et c'est une solution de victoire, même s'il nous faut passer par des douleurs dans notre vie. Nous dit, quand nous avons lu ce texte et quand on se regarde un petit coup résumé de la vie de ce prophète Jérémie, vous savez que Jérémie a donné un nom que l'on emploie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez. Vous le savez? C'est Jérémiade. Et Jérémiade, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est jamais content. Toujours en train de geindre. Par contre, je voudrais vous dire que quand j'étais tout petit, eh bien, on m'a appris un chant que je chante encore de temps en temps à mes petits-enfants. Je suis toujours content, par la pluie ou par le beau temps, parce que Jésus est en moi. Alléluia. Les Jérémiades, ça ne va pas avec la vie de l'enfant de Dieu. Là, c'est vrai que nous passons, je l'ai dit, je le redis, dans des temps de peine, dans des temps de tristesse, par les combats que nous menons, mais c'est aussi notre vie accompagnée, ne l'oublions pas, de joie et de victoire. Ne dites pas tous amen. Comment? Ah, merci. Oui, oui, si je prends en exemple déjà Jérémie, eh bien je m'apercevrai que Jérémie a été celui qui a reçu de l'opposition. Il a été maltraité à cause de ce qu'il annonçait, qui était pure et simple vérité. Il a été jeté dans un cachot, dans une prison, à cause de ce qu'il proclamait. Il a été aussi jeté dans une fosse où il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue dans laquelle il s'enfonçait. Il allait mourir et Dieu lui a envoyé des amis qui, avec des cordes, l'ont retiré de cette situation. Après tout ça, a-t-il dit, « Seigneur, j'en peux plus ?» Non, il a dit, « Je continue !» Il avait aussi le combat avec les ennemis du pays dans lequel il vivait. Il a vu cette destruction. Son âme a été abattue. Parce que dans certaines situations, on ne comprend pas toujours les raisons de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dirige notre vie. Alléluia. Et nous, il n'a pas besoin de nous expliquer le pourquoi et le comment il agit comme ça. Il attend de nous que nous lui fassions confiance. Il ne faut pas se laisser abattre par l'adversité de quelque manière qu'elle arrive. Vous êtes, je suis, enfant de Dieu. Et Dieu veille sur nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous portions du fruit à la gloire de son nom. En tout temps, en toutes circonstances et en toute situation. Et là, nous voyons ce Jérémie qui est abattu, son âme lui dira lui-même, elle est abattue, l'absinthe, l'amertume est un poison qui est en son cœur, ça le gêne et puis d'un seul coup, il dira, mon âme est abattue au-dedans de moi, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi après j'espère, c'est que ta bienveillance, la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisés, que toutes ces compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Alléluia. En tout temps, en toute situation. Et cela est bon pour chacun d'entre nous ce matin, chrétien ou non chrétien. Dieu est en train de nous dire, aie confiance en moi, viens vers moi, crois en moi, attends-toi à moi, donne-moi ta vie, je t'appelle, depuis ta jeunesse, j'ai préparé un chemin de bénédiction. Veux-tu le prendre? Veux-tu le prendre? Et surtout, veux-tu y rester contre tout et malgré tout? Puissions-nous dire, je veux te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Donne-moi la force, donne-moi ta puissance, donne-moi de comprendre ta vérité, afin que j'obtienne le salut par ta grâce. Alléluia. Jérémie a tenu bon. Je le répète encore, je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. C'est le verset 24-25 que j'ai pris dans la traduction, la second 21. Dieu nous appelle à venir à lui. Et merci Seigneur pour ceux qui ont répondu favorablement parce qu'ils ont déjà, je le crois, expérimenté la grâce de Dieu. Mais je voudrais leur dire que les temps sont aussi difficiles que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens aujourd'hui. Cela devient de plus en plus difficile. Il y a de l'opposition, il y a tout ce que vous voulez. Ne vous laissez pas rentrer par le problème de l'amertume qui est un véritable poison. Ne doutons jamais de la puissance de Dieu et attendons-nous à voir sa gloire. Alors, je me suis posé quelques questions. Par quoi l'inquiétude, plutôt l'amertume peut-être rentre en notre cœur? C'est l'amertume rentre à cause des inquiétudes que nous pouvons avoir. Mais enfin, je pense que vous, ce matin, vous êtes sans inquiétude. Comme diraient mes enfants, pipeau. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Excusez-moi, mais je crois que nous sommes peut-être un peu inquiets. Inquiets quant aux choses qui se passent et quant aux choses qui arrivent. Mais je dirais à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui veulent le croire, ce n'est pas moi qui le dis, il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas l'homme qui le veut, c'est Dieu qui a décidé. Il veut en sauver un grand nombre dans notre monde. Mais comme le monde s'endurcit, Dieu réagit à sa manière pour qu'un plus grand nombre d'âmes soient sauvées avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Que son nom soit béni. Mais cela ne va pas aller avec facilité. Cela va demander à chacun d'être fidèle dans toutes les voies du Seigneur et de compter sur sa grâce, comme nous le chantons parfois. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin et surtout pour arriver dans ta victoire. Les inquiétudes. J'ai déjà cité ce verset, je vais vous en citer un autre qui vient de la part du Seigneur, parce que s'il y a le poison qui s'appelle l'amertume, les inquiétudes pour essayer de détruire notre foi, il y a quand même les paroles du Seigneur qui sont l'antidote à cela. Et je dis simplement, Matthieu chapitre 6, verset 23-24, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même à chaque jour. » Suffit sa peine. Qui ose dire alléluia? Quand tout va mal, qu'est-ce que je dis? Il n'y en a que quatre, hein? Vous êtes enfant de Dieu ou pas? Vous voulez venir enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu ou pas? Dieu vous promet sa bénédiction. Et il la donne chaque jour. Amen. Louez Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Je vais vous faire une petite confession. J'ai connu le Seigneur à l'âge de 5 ans. 5 ans. Gloire à Dieu. Je vais arriver à 75 ans. Ça fait 70 ans que je marche avec le Seigneur. Bon, de 5 ans à 12 ans, 15 ans, Hein, j'étais enseigné sur les bancs de l'école du dimanche ou du jeudi, en mon temps, c'était l'école du jeudi. J'étais enseigné, j'ai reçu le message, alléluia, message de la parole de Dieu. J'ai grandi avec cela. Mes parents nous ont appris à venir aux réunions. Ils allaient à la réunion de prière. À 5 ans, j'étais encore tout petit. Ils nous prenaient, ils amenaient la réunion de prière du soir. Eux priaient et moi, ils m'avaient mis sur les chaises et je dormais. Mais ils nous ont inculqué la parole de Dieu. Ils nous ont montré le témoignage de la part du Seigneur. Nous sommes venus au Seigneur avec mes parents pour la guérison d'un frère qui était condamné à l'âge de 9 ans. Il devait mourir parce qu'il avait une fente dans chaque rein. Il urinait le sang. Il avait 9 grammes d'urée et 9 grammes d'urine. Non, pas d'urine, 9 grammes d'urée et puis d'autres choses dans les urines. Et un jour, elle était dans la rue. Et elle pleurait. Et elle allait faire ses courses et elle pleurait parce que son fils n'avait plus qu'un mois à vivre. C'était ce que le médecin avait ordonné. Et un mois, pendant qu'elle était là dans la rue, une dame s'est approchée. Et ça, c'est un témoignage pour tous. Elle s'est approchée, elle avait en larmes, elle lui a dit, « Madame, pourquoi vous pleurez ?» Et elle lui a répondu simplement, et cette femme, bien sûr, après on a compris, elle était chrétienne. Et après, cette femme, elle lui a dit, « Mais pourquoi pleurez-vous ? Mon fils va mourir dans un mois avec cette maladie de rein, il urine le sang, l'urée qui augmente. C'est plus contrôlable, a dit le docteur, il a un mois à vivre. » Et cette femme lui a dit, « Madame, je connais quelqu'un qui peut agir pour vous. Il s'appelle Jésus, il a la toute-puissance. Je vous invite à aller à une réunion à Toulon, 9 rue Émile Barla. Je m'en souviens encore. » Et ma maman, elle est allée avec ses 3 garçons. Et puis au moment de la fin de la prédication, le pasteur, il a dit que ceux qui sont malades viennent et reçoivent l'imposition des mains au nom de Jésus. Elle s'est approchée avec mon frère et le Seigneur l'a instantanément guérie. On est allé à ce qu'on appelle une contre-visite, mes parents... Et le médecin l'avait déclaré guéri. Plus rien, terminé. Et ce même frère est devenu pasteur missionnaire à La Réunion pendant plusieurs années. Maintenant, il a pris la retraite. Dieu est grand. Amen. Dieu est bon. Amen. Et ce Dieu dont je vous parle ce matin par ce témoignage, c'est le même. C'est le Tout-Puissant, c'est celui qui peut tout, c'est celui qui a le planning. Mais il n'a pas dit qu'on passerait à côté des problèmes. Je n'ai pas le temps de vous dire tous les problèmes dans lesquels nous sommes sortis, parce qu'il est fidèle. Nous sommes passés très près du départ de cette terre, mais Dieu est venu, il est intervenu au dernier moment. Parce que Dieu, ce qu'il promet, il accomplit, mais il accomplit toutes choses belles en son temps. Amen. Jérémie n'est pas resté comme ça, il est sorti de sa situation, Dieu est venu, Dieu s'est à nouveau servi de lui. Et il a vécu longtemps après encore pour servir le Seigneur. Mais si je prends par exemple, si je prends Joseph, c'est la même situation. Joseph a été appelé par Dieu, il a eu une vision avec dites-moi tout là. Les gerbes, enfin je vais dire les gerbes, mais en fait c'est les espèces de petites meules qu'on lève comme ça, qui se courbaient, 12 se courbaient devant 2 autres qui étaient debout. C'est la vision. Dieu a appelé Joseph à devenir un serviteur de Dieu. Et quel serviteur de Dieu ? Un homme à son service, dont il allait se servir pour bien des années plus tard, pour venir en aide au peuple d'Israël. Alléluia ! Bien des années plus tard. Et par où est passé Joseph pour arriver à cette place qui va lui être confiée par le pharaon d'Égypte, parce qu'il va devenir, selon la volonté de Dieu, président, on va dire vice-président ou vice-roi. Il avait la même autorité que Pharaon quand il sortait dans la ville sur son char. Tout le monde se baissait, monsieur Joseph est là. Oui, mais Joseph ne cherchait pas les honneurs. Il était rempli de la puissance de Dieu, qui le conduisait, qui le dirigeait, qui lui révélait les choses. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, j'espère. Mais vous savez combien il a souffert pour en arriver là. Ses frères ont été jaloux de lui parce que son père avait un peu plus d'affection apparemment que les autres. Alors un jour, ils ont décidé de le tuer. Et quand il est venu près de ses frères, sur le conseil de son père, apporter des fromages, ils l'ont pris, ils lui ont enlevé la belle tunique que lui avait fait son père. Ils l'ont déchiré, ils l'ont maculé de sang, d'un sang d'une bête qu'ils avaient égorgée, pour faire croire à sa mort. Ils le jetèrent aussi dans une fosse pour s'en débarrasser. Et le même terme quand vous relisez, tuons-le ! 11 frères qui disent, tuons-le ! Et heureusement qu'il est arrivé là des Ismaélites. Et l'un d'eux, parmi eux, dit, c'est pas la peine de le tuer, ça c'est pas nécessaire. Vendons-le ! Et ils l'ont vendu à ces hommes, à cette caravane qui passait. Dieu avait un plan et ce plan de Dieu continue. Il arrive dans le pays et dans la ville où se trouve le pharaon, là il y a un homme, Potiphar, qui s'aperçoit qu'il a des qualités qui ne sont pas communes, que tout ce qu'il fait réussit. Alors il le prend à son service, il le fait rentrer dans sa maison. Et là, il va être tenté, Joseph, parce qu'il est écrit qu'il était beau, c'est une belle stature. Ça fait vibrer Madame Potiphar, qui est venue sournoisement avec une idée et qui lui a dit « Couche avec moi. » Attention à ces pièges, frères et sœurs. Si on n'est pas bien établi sur la parole de Dieu, si nous sommes en petite défaillance d'amertume, le diable va arriver, il va vous tenter d'une manière ou d'une autre pour vous faire chuter. Mais qu'a répondu Joseph ? Pécherai-je contre l'Éternel en accomplissant un si grand péché ? Il a refusé. Le résultat d'avoir pris position pour Dieu, pour sa sainteté, il fut jeté en prison sur le faux témoignage de Madame Potiphar. Croyez-vous que Dieu l'a abandonné ? Croyez-vous que Joseph s'est posé des questions ? Peut-être, c'est pas écrit, mais toujours est-il qu'en prison, il a été utile. Il a été utile. Il est resté 2 ans en prison environ. Mais pendant ces 2 ans, il a pu expliquer des songes au panetier, à l'échanson. Et ce qu'il a exposé, toutes ces explications, ont trouvé un résultat à ce qu'il a dit positif. Cela a amené le pharaon à aller chercher Joseph parce que dans un temps difficile pour Pharaon et les habitants de la ville, la famine arrivait. Alors on est allé chercher Joseph pour qu'il soit celui qui explique le songe que Pharaon avait eu. Et comme la réponse a été bonne, Joseph s'est retrouvé premier ministre. Dieu n'abandonne pas ce qu'il aime. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté à cette prise de position de Joseph. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Parce que Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël. Pour la famille de Joseph qui était restée dans leur pays. Et qui connaissait aussi la famine. Alors là, Dieu a parlé à Joseph. Et le cœur du père de Joseph a décidé d'envoyer ses fils pour trouver du secours auprès de l'Égypte. Et quand ils arrivèrent, ses fils, qui étaient les frères de Joseph, il nous est dit, Joseph les reconnut. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Et il a reconnu le petit frère qu'il aimait bien. Et c'est beau ça, hein ? Regardez le plan de Dieu. Il y avait 70 personnes qui allaient mourir de la famine. 70 familles qui appartenaient à Dieu, qui priaient Dieu, qui servaient Dieu, qui avaient la connaissance de Dieu. Dieu ne les a pas abandonnés. Il a tout fait pour que Joseph, avec le temps, Dieu fait toutes choses belles en son temps, avec le temps prenne et arrive à cette responsabilité de premier ministre qui va maintenant intervenir en leur faveur. Et je vais vous lire, parce que dans le cœur de Joseph, il aurait pu, vis-à-vis de ceux qu'il a connus par ses frères, qui voulaient le faire croire mort et disparu, il aurait pu avoir en lui de l'amertume, de l'aigreur, un tas de sentiments qui ne glorifieraient pas Dieu. Et quand il voit ses frères, il discute avec eux, et je vous lis simplement ce qu'il dit au chapitre 50, versets 20 et 21. « Vous aviez voulu me faire du mal. » dira-t-il à ses frères. Mais Dieu a voulu Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte. Écoutez bien, je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il les réconforta. Amen. Amen. Quel exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a manifesté un torrent d'amour envers ses frères. Il avait le pouvoir de les mettre en prison. Il avait le pouvoir de les condamner. C'était lui le vice-pharaon. Il en avait le pouvoir. Mais il était avant tout serviteur de Dieu. Dieu l'avait choisi. Comme il vous a choisi. Comme il veut vous choisir. Afin que vous serviez son nom. Non pas avec une certaine, un esprit de jugement. Quand parfois cela se passe mal. Quand il y a des difficultés. Quand il y a des fois des incompréhensions. Mais qu'est-ce que nous demande Dieu? De le regarder lui. De l'écouter lui. De faire comme lui. D'être imprégné de son amour comme lui. Afin que nous soyons tous en paix les uns vers les autres. Un chrétien a des amis, il peut avoir des ennemis, mais en tant que chrétien, je les aime et je prie pour eux. Telle est la volonté de Dieu. Ne laissons pas l'amertume rentrer dans notre cœur. Ne les laissons pas prendre racine. Ne croyons pas que ce que l'adversaire nous propose est bon. Tout ce qu'il nous propose est mauvais. Les mauvaises pensées qui nous agitent, elles viennent du diable, elles ne viennent pas de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu veut sauver le monde. Et il a besoin d'hommes et de femmes comme vous et moi pour aller porter le message de paix et d'amour. Alléluia. Oui, dans notre monde, il se passe, soyons honnêtes, il se passe des choses incompréhensibles. Jusqu'à peut-être que certains disent, si Dieu existe, pourquoi permet-il tout cela? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut pour amener les âmes à lui. Au travers de Jésus-Christ qui nous a donné. Alléluia. Mais il a besoin de nous. Peut-être même quelqu'un pourrait dire, il pourrait s'en passer. C'est vrai, parce que le travail serait peut-être mieux fait. Mais en tout cas, il nous a dit, soyez des ouvriers de paix. Alléluia. Enlevez toutes les racines d'amertume. Envers qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Enlevez et croyez simplement à ce que Dieu vous dit. Croyez simplement à sa parole. Vivez sa parole, aimez sa parole. Transpirez la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut pour que le peuple reste debout. Et que les gens qui nous entourent, dans ce temps de tumulte, dans ce temps où la frayeur règne, où la violence s'élève, où on va se demander bientôt où est-ce qu'on va pouvoir aller faire ses courses sans avoir la pensée de se faire tuer. Oui. Ne vous laissez pas tracasser par toutes ces choses. Vivez dans la paix de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Et quoi qu'il arrive, vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous serez sauvé pour l'éternité si vous lui êtes fidèle. Bon serviteur, bonne servante. Alléluia. Ne craignez rien, a dit le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Permettez-moi une question. Je suis curieux, mais je ne veux pas trop dépasser le temps. Qui aujourd'hui, en toute sincérité, en toute confiance, est véritablement l'enfant de Dieu que Dieu veut que nous soyons? Pouvons-nous lever la main? Ou avons-nous à dire avant de lever la main, Seigneur, pardonne mes amertumes, pardonne mes erreurs, je me suis loupé là, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai mal réagi, et pourtant, Seigneur, je t'aime. Oui, mais c'est tu m'aimes, dira le Seigneur. Fais ce que je te dis. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ne désespère pas quand tu es dans la difficulté. Je suis celui, dit le Seigneur au travers de l'apôtre, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Et pourvoirai à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Et que d'exemples dans la parole de Dieu où des gens se sont trouvés sans nourriture et Dieu, et même un prophète s'est trouvé aussi sans nourriture. Il a guidé jusqu'à la maison de la Samarie où cette femme allait manger son dernier gâteau avec son enfant. Et puis après, elle le dira, elle le confessera, je mange ça. C'est bien gentil, tu demandes un bout de gâteau, mais moi je mange ce qui reste et après nous mourons. Et quelle a été la parole de prophète? À la contre de cette femme, il lui a dit, on va penser que c'est de l'égoïsme. Non, il y avait là une parole de foi. Donne-moi un bout de ce gâteau et plus rien ne te manquera. Elle l'a fait. Elle a été bénie. Lui, la farine est arrivée en profusion. Ils n'ont pas péri. Ils ont été bénis et gardés de Dieu. Laissons pas le doute ni l'amertume. À quoi ça sert de croire en Dieu? À quoi ça sert de marcher avec Dieu? À quoi ça sert de dire je compte sur Dieu si rien ne tombe? Mais Dieu donne. Et parfois on ne sait même pas le voir. Et pourtant il veille. Je vous ai dit tout à l'heure, 75 ans que je connais le Seigneur, 70 ans, je ne m'ai jamais vu Dieu nous délaisser à des moments difficiles de notre vie. Dieu est arrivé. Et il nous a montré qu'il était présent. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui vivent pour lui, avec lui. Il n'abandonne pas ceux qui acceptent de le recevoir dans leur cœur et de lui faire confiance. Il ne les abandonne pas. Lorsque des fois on dit, ça y est, c'est fini, c'est là que la porte de la délivrance s'ouvre. Ne t'ai-je pas dit que j'étais avec toi? C'est ça le Seigneur. Puissions-nous le comprendre ce matin? Dieu nous appelle les uns et les autres à venir à lui et à lui faire confiance. Pas faire confiance seulement quand tout va bien. Merci Seigneur pour les moments qu'il nous donne. Des moments de joie, moments de rire, moments de détente. Merci Seigneur quand tout cela est fait dans un respect de pureté, de sainteté. Ne courons pas après ce que le monde nous présente. Il nous mène à la faillite, faillite spirituelle. Attachons-nous au Seigneur. Faisons avec lui un corps, un seul corps, toi en moi, moi en toi, et en nous, alléluia, afin de voir en tout temps la parole du Seigneur. Vous savez, ce qui peut abattre, je prends encore 5 minutes, ce qui peut abattre un enfant de Dieu, un chrétien, quel qu'il soit, ou ceux qui vont, par la grâce de Dieu, nous le croyons, pénétrer dans ce chemin de vie et de vérité, que Dieu le fasse ce matin, qui touche des cœurs, et qui ces cœurs disent, Seigneur, c'est en toi que je veux me confier, car je sais que je ne serai pas déçu par toi. Eh bien, le Seigneur nous invite à ne pas laisser le désespoir pénétrer notre cœur. Parce que l'amertume vous amènera toujours au désespoir. Et le désespoir va nous amener à la perte de notre espérance. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous fortifier dans notre persévérance pour obtenir la délivrance éternelle. Que le nom du Seigneur... Vous savez, il y a un homme de la Bible qui s'appelle Job. Et Job, je cite cet exemple pour tous ceux qui sont là, les jeunes, les familles, parce que les temps, je l'ai dit, mais... qui sont devant nous ne seront pas des temps faciles. Ne croyez pas les beaux parleurs qui vous disent « ça va aller mieux demain ». Lisez la parole de Dieu. Ça deviendra mieux si Dieu le veut. Alléluia. Mais n'écoutez pas les contes et les fables qu'on vous raconte. Soyez le cœur ouvert à la parole de Dieu et laissez la pensée être conduite, dirigée par le Seigneur. Alléluia. Et là, Job, lui, il dira ceci, alors que lui aussi a connu... Voyez-vous, des hommes qui ont été, et qu'on peut citer en exemple dans la Bible, lui aussi a connu ses souffrances morales, physiques. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu la santé. Et sa femme qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Mais où on va là? C'était terrible pour Job. Et quand on lit le livre de Job, il a cherché à comprendre pendant longtemps. Il y a eu des amis, mais qui n'ont pas toujours été des bons conseillers. Jusqu'au jour où il a dit, Seigneur, je sais qu'un jour mes yeux te verront. Et il était dans les problèmes quand il a dit ça. Mes yeux le verront, pas ceux d'un autre, mes yeux te verront, toi. Même lorsque ma chair sera complètement consumée, même que je ne serai plus rien, mon corps disparaîtra, mais mon âme vivra et mon âme te verra. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Job a tenu bon. Il dira dans le chapitre 6, verset 11, « Mais je n'ai plus la force d'espérer encore. À quoi bon patienter ? Je n'ai plus d'avenir. J'ai l'impression que ça, de temps en temps, je l'attends dans notre monde d'aujourd'hui. Je l'entends des fois dans les paroles des chrétiens. Seigneur, je suis à la maison, mais c'est vrai que je reçois des coups de fil des frères et sœurs que nous avons connus et qui sont maintenant dans une détresse. Ils se demandent ce qu'ils deviennent. C'est vrai que, où on va ? J'ai plus d'avenir. » Mais le Seigneur dit, oui, tu as un avenir. La vie éternelle. C'est cela que j'ai promis. Et c'est cela que j'accomplirai si tu me restes fidèle. Je ne t'abandonne pas dans tes problèmes, dans tes difficultés. Je suis toujours avec toi. Mais on ne le voit même pas. On ne le voit même pas. Vous savez que... Je vais couper. Mais je dirais comme ça. Vous savez, ce matin, si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez entendu le réveil. Ce n'est pas parce que vous avez bu votre café, pas parce que vous vous êtes lavé, vous êtes fait beau, tant que ce peut, moi j'ai essayé. Mais c'est si je suis là ce matin avec vous, et vous avec moi, une grâce de Dieu. Est-ce que ce matin en vous levant, vous avez dit « Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es avec moi encore aujourd'hui ?» Dites pas tous « Amen ». Est-ce que vous l'avez dit ? Et pourtant, tous les matins, il faut le dire. Le soir, je me couche, je dis « Merci mon Père, merci pour la soirée, pour la journée, tu as été avec nous. Merci Seigneur, parce que je sais que mon sommeil va être doux. » Et le matin, je dis « Bonjour papa, je suis bâtin. » Pauvre homme, il dit ça à son âge, bien sûr, mais je ne suis pas sénile. Je sais à qui je m'adresse. Alléluia. Comment ne pas dire merci à un Père qui m'a tant aimé, qui m'a tout donné. Une belle femme, des enfants, des petits-enfants, tout est là. Il a comblé nos vies. Comment ne pas lui dire merci dès le matin et aussi le soir. Ouais. Seigneur, il est tellement bon. Alléluia. Voilà, je vous ai cité le verset, mais je dirais en conclusion un autre verset, un autre et dernier exemple. Vous me le permettez ? Je m'excuse si je dépasse le temps. Mais souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, sous la conduite de Moïse, ils ont vécu une merveilleuse délivrance. Déjà sortir d'Égypte. Deuxièmement, ils sont arrivés à la mer Rouge. Avec les Égyptiens derrière. Mais Dieu avait tout prévu. La nuée et la lumière. Alléluia. Entourez le peuple d'Israël. Quand vous lisez le passage de la mer Rouge, il nous est dit que Dieu les a conduits vers la mer Rouge, mais il a placé. Il a placé le peuple d'Israël dans un passage où il fallait passer, permettez la répétition, de passer de manière à arriver sur une plage. Et là, il y avait ces deux montagnes qui se faisaient face. Et qu'est-ce qui fait Dieu, là ? Il a élevé, quand on le lit, ce n'est pas précisé, il faut faire un petit peu des recherches. Mais quand ces deux montagnes ont été reliées par quoi, d'après vous ? Qu'est-ce que Dieu a mis là ? Eh bien, il a mis la muraille de feu. Ce qui était infranchissable pour les Égyptiens. Ils ne pouvaient pas passer, il y avait la muraille de feu. Et pendant que la muraille de feu était là, qui était la protection divine, Moïse a levé, suivant l'ordre de l'Éternel, le bâton au-dessus de la mer Rouge. Il a dit au peuple, ne vous inquiétez pas et regardez de vos propres yeux la délivrance que Dieu va vous accorder aujourd'hui. Et la mer se fendit. La mer se fendit, elle s'est ouverte. Quel miracle, déjà, de voir la mer qui s'ouvre. Ensuite, il a dit, allez maintenant, passez. Et il y avait quand même plus de 450 000 personnes, si ma mémoire ne me trahit pas, qui ont pris ce chemin-là. Mais pour passer, est-ce que vous êtes déjà passé dans un endroit où, là, où il y avait de l'eau qui avait stagné là? Mais c'est, vous ne pouvez pas avancer, vous avez les pieds qui s'enfoncent, non, je me trompe. Et eux, ils arrivaient avec les chevaux, les chameaux, les moutons, les bœufs, les ânes, les caravanes. Pas celles que vous avez aujourd'hui, hein, les chariots. Et tout cela a passé, tout cela est passé de l'autre bord. Et quand ils ont tous été passés, le rideau s'est enlevé. Le pharaon a dit, poursuivons-les. Et quand ils sont arrivés au milieu, la mer s'est refermée sur eux parce que Dieu leur avait dit, ces ennemis que vous avez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus. C'est la victoire de Dieu. Alors ils partent. Ils partent, ils sont contents, heureux, 3 jours de contentement. Ils arrivent à un lieu, ils ont soif. Ils ont soif. Alors il y a une mare là, un étang. On se penche pour boire. L'eau était. L'amertume, ça donne la mort. S'ils avaient bu là, ils seraient morts. Vous me suivez bien? Alors Dieu va parler à Moïse. Il va dire, il va lui montrer un bout de bois. Il prend ce bois et jette-le dans la mare. Et les eaux de Marah, qu'on appelait amères, c'était le nom exact, amères, il nous est dit que lorsque le bois fut jeté dans l'eau amère, elle devint douce. Miraculeusement, elle devint douce. Alléluia. As-tu la croix plantée dans ta vie ce matin? La croix de Jésus-Christ, le bois de la croix, est-ce qu'il est dans ta vie? Parce que si le bois de la croix est dans ta vie, tu ne connaîtras plus l'amertume, tu connaîtras la paix, la douceur, la joie de porter le message de la vie, de porter des fruits à la gloire de ton nom, tu seras confiant et tu verras quoi? La gloire de Dieu dans ces temps-là et dans l'avenir. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie et que votre confiance en lui ne faiblisse jamais. Ne laissez pas place à l'amertume, aux inquiétudes. Croyez à la victoire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes. Merci Seigneur pour ce que tu nous révèles. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre assurance plus que jamais en toi. Et nous voulons rejeter toutes sortes d'amertume, toutes racines d'amertume qui auraient pu rentrer dans notre cœur, qui nous apportent des mauvaises pensées. Au nom de Jésus, nous les lions et nous croyons à la victoire de notre Dieu. Alléluia. Nous croyons à la bénédiction du Seigneur. Nous croyons qu'il agit maintenant et qu'il nous rend libres, libres dans la vie de Dieu, libres dans la foi, libres dans la vie spirituelle. Vous êtes, nous sommes un peuple de vainqueurs et nous marchons vers l'éternité. Merci Seigneur. Amen.